C'est le moment original avec Leïla Kadoumoudali.
Bonjour.
Morgane Guénon, Famille Ruet, Tanguy Pastureau, Daniel Moreau.
Ah, bonjour.
Oh là là,
et nos invités Mazarine Pinjot et Olivier Norek.
Oui.
Des plumes de romanciers pour raconter des histoires aux enfants. Ça s'appelle Une histoire et au lit. C'est la collection qui est chez Michel Lafon, avec la notion de livre, j'ai envie de dire. Et puis en podcast sur Inter régulièrement.
Absolument.
Et c'est un véritable carton en plus en podcast.
Mais
je crois
ouais.
qu'il y a des millions de personnes qui suivent ce podcast.
21 millions d'écoutes.
Tu les as comptées, c'est énorme. C'est énorme. Donc. Qui est habitué aux histoires et au lit? Daniel, t'as fait ça avec ta petite?
Ah oui, bien sûr, évidemment.
un petit moment doute. Une histoire et au lit.
Si j'en ai
j'ai quelques-unes, moi.
Tu en as écrit?
Oui.
Dans cette collection?
Absolument.
C'était, elle s'appelle comment?
Bouboule la poule trop cool.
Évidemment.
Évidemment.
Mais pourquoi tu me l'as pas offerte? J'ai hâte de la lire.
Mais je te l'offrirai avec très grand plaisir.
Ah ouais, j'adore, je suis sûr que vous
voulez.
Tu racontes des histoires ou...
Oui, je lis des histoires.
Tu les lis?
Et je raconte aussi.
Tu les inventes un peu?
Oh, oui, j'invente un peu. Oui.
Mais elle répète son JT.
Oui, tu fais des lancements.
Quelle est la question?
Vous avez passé votre vie à raconter des histoires. Donc.
Oui, c'est ça, on s'en raconte une à l'autre. Et c'est extrêmement...
C'est mytho
énormément.
Comment?
Des petites histoires, je t'en raconte de temps en temps.
À dormir debout, Daniel Moreau.
Non, moi, ce que j'adore, c'est commencer une histoire et demander à l'enfant, voilà, et de dire, on invente totalement et on fait un ping-pong.
Mais
on fait la suite.
Très honnêtement, vous vous endormez pas?
Non.
En lisant, c'est vrai?
Non, parce qu'on aime les gens.
Oui.
Non, mais ça dure pas longtemps non plus.
Et puis, c'est quand même à 16h30. Donc, il y a
vraiment... c'est vrai que tu les couches tôt.
Allons-y avec le blind test.
Wow. Daniel.
Oui.
Midnight Oil.
Oui.
C'est quoi le titre?
Beds are burning.
Ok. Ding, ding,
ding. Il sort de lit, non? Et qui chante ça?
Bon Jovi?
Oui.
Évidemment.
Je te rappelle qu'il faut dire Leïla avant.
Leïla,
oui, Bon Jovi.
Et
avec.
Quelquefois, elle se fait appeler Bon Jovi.
Oui,
Leïla.
C'est mon deuxième nom. Ouais.
Bed of Roses.
Ah, bah oui.
Et ça?
Oh putain.
Ah ouais.
Très connu. Très connu, mais pas assez, visiblement.
Si.
T'attends la voix?
Elle ne viendra pas.
Si.
Ah mais. Putain, j'arrive pas à
chanter. Français.
Bah oui.
Maintenant.
Non. Ah, super.
Ah, j'ai cru.
De Palmas, ça y est là, de Palmas?
Non.
Ah, ça pourrait, ouais, t'as raison. Je ne veux
pas m'endormir. Morgane, là? Stéphane Richard?
Non.
Ah ouais. C'était la sur Cali?
Non plus.
Stéphane Richard, on est sûr?
On est sûr. Alors, c'est peut-être un membre de la famille.
Ah, les innocents, la taf,
mais c'est un groupe.
Eh oui.
Louis Attaque?
Non.
Daran et les chaises.
Ah non, ça j'avais pas.
Ah, c'est plus les lits?
On fait les mobiliers aux chaises.
Dormir dehors.
J'aurais.
Daran et les chaises, alors.
Bon, j'ai l'impression qu'on va faire plus facile pour vous.
T'as eu là, Nirvana?
Ouais, déjà.
Ah, where did you sleep?
Last night.
C'est vrai que cette phrase t'as dormi où hier soir, c'est.
Ouais, ça met l'ambiance.
Ça peut gâcher, ouais, ça peut gâcher une
ouais. Quand tu la poses, c'est gâché.
Là, t'éteins les bougies, là. Bon, non, je...
Qui interprète? Entrez. Ah, si.
Ouais.
Mais même si vous connaissez pas le titre, vous connaissez l'interprète.
C'est anglais?
Ouais.
C'est pas français.
C'est pas français.
Ah ouais, alors ça c'est. Leïla?
Ouais.
Non.
C'est Bruce Springsteen?
Phil Collins?
Bruce Springsteen?
Non.
Phil Collins. Genesis? Pas du tout.
C'est américain.
Daniel?
Texan.
Top?
Oui, exactement. ZZ Top. Tellement reconnu. Ah, c'est le son quand même.
Ouais, mais je l'ai pas trop moi.
Si. Sleeping Bag. le sac de couchage.
Le sac à viande.
Le bon sac de couchage.
Essayer de trouver des chansons avec dormir au lit ou des lits, c'est pas facile, hein. Et ça.
Daniel ?
Oui.
Cabrel ?
Joli.
Ah, bravo, oui. Bravo. J'ai dû dormir
debout. Et là ?
Ah ouais.
Et alors ? Dormir
debout. Putain, sur ces étapes encore.
C'était pas le banco, ça, à Cabrel, quand même.
Non.
Non, ça fait 3 points pour Daniel, 2 pour Leïla. Le banco, il arrive maintenant. Alors, si vous gagnez là, je dis respect.
Daniel.
Ah oui.
C'est Sleeping Satellite.
Joli. Tasmin Archer, Sleeping Satellite, Daniel.
Ouais.
Pratiquement à 100 votes. Si t'avais pas piqué 2 titres.
Ouais. Si on lui avait pas
piqué. Victoire de Daniel Morin. Et merci d'accueillir Mazarine Pinjot et Olivier Norek.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Soyez les bienvenus tous les deux. La tête que fait Mazarine, parce qu'elle sait, je lui dis, je vous ai réservé aussi un blind test pour vous.
Je déteste ça. C'est une nulle. Et comme j'aime pas trop perdre.
Ouais. Alors, c'est ou Mazarine ou Olivier. Vous me donnez votre prénom avant de donner la réponse. Okay. Reconnaissez-vous ce morceau ?
C'est quand t'allumes la Wii ?
C'est pour enfant ?
Bah, c'est au lit ?
Non.
Oh. Ah !
C'est un titre très connu.
Tu peux le remettre ?
Bah, ça tourne toujours. Hein.
Non, non, mais je veux juste le début.
Chantal Goya.
Parce que tu peux le remettre, c'est un titre.
Oui.
Mais
là, je vous demande.
Let's Dance, c'est beau, oui.
Exactement.
Non. Attends, c'est trop fort.
C'est génial. Fait en version continue.
Version boîte à musique.
Ah ouais.
Alors maintenant, réécoutez la version boîte à musique.
Je préfère celle-là.
Bon, on va faire plus facile.
Pas évident. Hein.
Plus facile. Il faudrait quand même, Olivier, Mazarine, il faudrait au moins vous en trouver. Ça, c'est facile.
Seven Army.
Oui, Olivier. Oui, Olivier.
White Stripes.
White Stripes.
C'est l'album LFN.
Dans l'album LFN.
Ouais.
Ah, bah, pas, tu vois, tu dis que t'es mauvaise.
Mais alors, c'est vrai que pour endormir son enfant sur le titre original, c'est beaucoup plus compliqué, alors que la version boîte à musique. Bonne nuit. Mais ce n'est pas fini.
Il y a une super collection de livres comme ça, ils reprennent tous les standards rock, Queen, réarrangé.
Vous en voulez encore ?
Ouais, j'adore.
Encore. Non, non, ça c'est la réponse
ça,
de White Stripes. Non. Une autre. Ah, bah, ah, ça c'était la réponse. Hein.
Beyoncé.
Bon, c'était un peu facile.
Bah, voilà,
Beyoncé,
on l'a trouvé.
Bon, on va l'écouter quand même. Tu vois, quand c'est pas moi qui m'en occupe.
Tiens-toi.
Alors l'exercice de passer de la musique boîte à musique, en tout cas la musique pop rock, est un exercice que nous venons de découvrir, mais celui de passer de roman d'écriture pour adulte à écriture pour enfant est un véritable exercice aussi, Mazarine.
Ah oui.
On change totalement son.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Non.
Vraiment.
Ouais. Moi j'ai mis longtemps à passer le cap parce que j'étais.
Le brevet j'ai passé.
Non mais c'est.
Le diplôme.
J'ai raté combien de fois.
Non mais parce qu'en fait il y a rien de plus difficile que d'écrire pour les enfants. C'est difficile parce que il faut se mettre à hauteur d'enfant et hauteur d'enfant en fait c'est très difficile à évaluer où ça se trouve parce que il faut pas ni leur faire la morale ni essayer de faire essayer de faire quelque chose pour un peu infantilisant. Les enfants sont ultra intelligents, plein d'imagination et il faut un peu enlever toutes les couches de surmoi, de plein de choses pour retrouver un petit peu le diamant brut, c'est très difficile.
L'exercice, Olivier, est le même que lorsqu'on dit il faut pas parler à un enfant pour l'infantiliser entre guillemets, lui parler je crognonieux et ainsi de suite.
Ouais, mais se souvenir aussi que ce sont des éponges et qui sont beaucoup plus forts qu'on peut le penser. Et d'ailleurs, ça a commencé les contes pour enfants, c'est pas autre chose que des films d'horreur insupportables. Mmh. Si vous regardez les contes de Perrault et les contes de Grimm,
on est
déjà en train de leur raconter des polars.
Oui.
C'est-à-dire que moi, ce que j'écris en roman, roman policier, c'est souvent bien en dessous de ce qu'on raconte dans Hansel et Gretel. Merci beaucoup. Hansel et Gretel, c'est quand même deux gamins qui sont abandonnés, qui terminent tout seuls dans une forêt, qui trouvent une sorcière, qui essayent de les bouffer, et à la fin, ils butent la sorcière. Donc, on est quand même sur des choses qui sont à son fort. L'intéressant, en fait, dans le conte, C'est le fait de donner des armes pour demain. Vous regardez les contes de Perrault et les contes de Grimm.
C'est ce que vous faites dans le Lapin de Chérif, c'est-à-dire que ça va même. Ça. C'est même du coaching psychologique.
C'est du coaching pour la première fois où un enfant va sortir donc du milieu familial où le regard ne juge pas. Enfin. On va parler des milieux familiaux en général.
Okay ouais. Où ça se passe bien. Quoi.
Voilà, où ça se passe bien. Voilà. On est d'accord qu'il y a d'autres types de scénarios. Voilà. Mais voilà, il y a le regard qui juge pas, il y a le regard qui aime, et à un moment donné, ils vont aller à l'école. Et à partir de là, tout est jugement. Et ça va commencer dès l'école.
Le
regard des autres.
Ou l'absence de regard.
Et c'est ce qui se passe 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, quand on a 40 ans ou 50 ans, ou même toute notre vie. La première chose qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, c'est un jugement ultra rapide.
Ouais. Bien sûr.
Comment il est? Est-ce que la personne me plaît? Est-ce qu'elle est bien habillée? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir une bonne hygiène? Est-ce que je coucherai avec? Est-ce que j'ai envie de discuter avec? Est-ce qu'il pourrait m'apporter quelque chose?
Est-ce que je peux qu'elle recouche avant de discuter avec?
Oui, j'ai senti que dans l'énumération,
on peut rencontrer des
Olivier,
gens
vous
comme
êtes,
ça.
Vous êtes, non, 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 mais vous êtes médium.
Très rapidement.
Vous êtes médium parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et vous êtes médium.
Vous avez déjà touché ensemble?
Non, mais c'est vrai que le jugement, c'est quelque chose qu'on fait immédiatement. On juge sur énormément de niveaux la personne qu'on a en face. Et pour en revenir donc au conte, je pense pas que Perrault ou Grimm avaient ce plaisir d'imaginer des ogres, des sorcières ou des loups pour dévorer les enfants. C'est tout simplement pour préparer les enfants à tout ce qu'ils vont affronter obligatoirement dans une vie, l'isolement, la perte d'un proche, peut-être la séparation. Tout ça, ce sont des armes qu'on leur donne enfants pour pouvoir se préparer. Donc les livres pour enfants sont pas autre chose que la plupart sont pas autre chose que des livres de coaching.
Il y a aussi toute la mythologie aussi, tout ce qui s'est passé, toutes les histoires qu'on racontait ou que les Grecs se racontaient aussi, ça fait partie Mazarine de votre culture personnelle, les légendes et la mythologie.
Ouais, j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant justement. Alors je continue d'aimer hein, parce que c'est les textes inépuisables,
clairement.
C'est ça les grands textes hein, qui fait qu'on peut les lire enfant, les relire adultes, les relire plus âgés,
ça, sans les percevoir toujours de la même manière.
Toujours en y trouvant des choses nouvelles. C'est vraiment les grands textes qui structurent toute l'histoire littéraire. Mais oui, bien sûr, la mythologie, ça continue de nourrir l'imaginaire. C'est impressionnant.
Vous avez une sorcière dans votre
moi
conte.
J'ai une sorcière Madeleine, parce qu'on peut pas faire un livre pour enfants sans sorcière.
Là, si, Olivier,
qui est moche. Et qui
sont sorcières.
Ah, la tolérance.
On va continuer de parler de et puis préciser aussi. Tu l'as dit tout à l'heure que tout ça se passe sur Inter aussi.
France Inter. C'est Oli. O L I.
La Bibli des petits.
Je suis pas petit. Je suis grand.
On ne reconnaît pas hein, la voix de Trapenard. Hein. Il travaille bien, quoi.
C'est au réveil.
On est ravis d'accueillir Mazarine Pinjot et Olivier Norek. Enfin, nous sommes ravis. Ce n'est pas le cas, évidemment, de Morgane Cadignan.
Ah oui.
Sorcière.
La sorcière. Go. Mazarine, Olivier, je vous aime pas. Mazarine, je comprends pas pourquoi vous vous mettez à la littérature pour enfants, vos livres de d'habitude. Moi, c'est ce qu'il faut, lire aux gosses pour en faire des adultes hyper réalistes. Hein. Alors ce soir, mon chéri, on va lire Et la peur continue. Moi, je coucherai mes enfants avec toute votre bibliographie. Je refuse de choisir. Hier, on s'est arrêté à la mort de la cousine du personnage. Tu te souviens, mon cœur? Mais non, il n'y a pas plus de monstres sous ton lit que dans nos icônes patriarcales, mon chéri. Allez, ferme les yeux, peut-être pour toujours, on sait pas. Allez, endors-toi.
Oh,
endors-toi, Agamemnon. J'ai déjà choisi les prénoms. Là, c'est quand même un peu plus léger avec l'histoire Madeleine et les mots qui fâchent. J'ai adoré. C'est une petite fille qui est ensorcelée par une sorcière et elle se retrouve à ne pouvoir dire que l'exact contraire de ce qu'elle veut exprimer. Et une sorcière a dû croiser mon chemin parce que je me suis tellement reconnue dans Madeleine. Ce que vous appelez un sort dans le livre pour les enfants n'est en fait que le quotidien d'un adulte un peu mal terminé. Personnellement, ce n'est que comme ça que je drague. Faut partir du principe que tu pues égale ton odeur m'enivre. Mais vas-y avec ta tête éclatée là, tu me plais beaucoup. Et enfin le classique, t'es une merde mec, c'est chaud. Franchement, je te calcule même pas. Si tu ne m'épouses pas, je plante une dague dans mon cœur immédiatement. Olivier, vous signez le Lapin Chérif. Ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon, Olivier. Original, ça va les chevilles. Et Olivier, il déteste Mardi Gras et cette année, sa mère, elle veut l'habiller en lapin. Il est un peu chafouin, mais du coup, son père, il lui file une étoile de shérif. Et du coup, ça devient un lapin plus, quoi. C'est la magie des enfants, ça. Dès qu'ils sont un peu moches, tu leur fous une couronne de la galette des rois sur la tête en disant, t'es la reine, ma chérie. Et ça marche. Après, tu dis à ton mari à l'oreille, la reine des cajots. Et vous riez. Oh, mais vous riez parce que malgré une parentalité discutable, vous êtes complices et qu'il y avait tellement de cocaïne dans cette galette. T'imagines? Non, mais chacun son enfance, mais t'imagines, on dit aux enfants
d'aller sous la table de la galette des rois pour compter les pas, alors que les adultes, ils se mettent des grandes traces à la surface. Après, ça, c'est mes souvenirs à moi. Ça se passe peut-être pas, ça se passe peut-être pas comme ça dans toutes les familles. Donc, bref, Olive, ça devient le lapin shérif et il passe une journée de dingo. Alors, je spoil un peu l'histoire, mais c'est pour les enfants. Hein. Donc, s'il y a des enfants qui écoutent France Inter à 11h15 du matin.
Bah, on est
soit
mercredi.
Vous n'êtes pas,
non, on est mercredi.
Oui, on est sur France Inter. Donc, soit vous n'êtes pas un vrai enfant, soit vous êtes retenu dans une cave quelque part et on peut pas faire grand chose à part vous dire qu'on pense très fort à vous et qu'on criera tout à l'heure pour que vous sachiez qu'il est 13h. À part ça, Olivier, avant de faire dans le polar pour Marmot, vous écriviez pour les vieux, et moi j'avais beaucoup aimé à l'époque Code 93, que je lisais à mon petit frère pour qu'il s'endorme. Et franchement, il va bien. Enfin, je crois. Enfin, j'attends des collègues, des nouvelles de vos anciens collègues d'Interpol pour me dire si ça va. Mazarine, Olivier, merci d'avoir adapté un peu vos plumes pour les petits poussins. Oh, oui, petits poussins. Je sais pas. Il y a mon stérilet qui a dû bouger. Bref, j'ai lu toutes les histoires d'Oli, et ça fait chier parce que je me suis pas endormie du tout. Ce qui veut dire que, un, soit c'est bien, deux, soit je suis plus un enfant. Donc on va partir du principe que c'est bien parce que c'est absolument hors de question que je sois un adulte.
Merci Morgane.
Et Morgane, t'es du jeudi au samedi au Métropole à Paris, en tournée dans toute France.
Merci.
Avec ces livres, alors il faut le préciser aussi, ils sont illustrés, ces livres, par Amélie Lafetteur pour... c'est pas toujours la même personne.
Hein. Non.
Amélie Lafetteur, c'est pour Mazarine, et Marcel Pixel, le bien nommé, pour Olivier Norek. Est-ce que vous vous mêlez de l'illustration, Mazarine ?
Non, au départ, il y a un choix. On regarde un petit peu l'univers des illustrateurs. Il y a d'abord plusieurs illustrateurs. On regarde un peu leur univers, on voit lequel fonctionne avec ce qu'on a écrit. Et puis ensuite, ils travaillent tout seuls. Mais en effet, quand même, on regarde les premières planches, en tout cas du personnage principal.
Oui, ce que j'allais dire, ça peut détourner totalement le propos aussi.
C'est vrai. Le dessin. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une rencontre d'univers, quoi, au départ.
La force d'une histoire, quand on la raconte, quand on l'écoute, c'est de s'imaginer s'il est grand, s'il est petit, si elle est blonde, brune, rousse, peu importe. Mais dès l'instant où on met une image, une couleur, une taille, une proportion, une forme de cheveux, peu importe, une texture de cheveux, je sais pas comment on dit, qu'elle soit frisée ou raide, d'un coup, ça devient pas la même histoire pour l'enfant, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est difficile après de savoir ce qui.
Donc c'est vous qui avez choisi votre Madeleine.
En tout cas, j'ai validé cette Madeleine.
D'accord, très bien. Et la vanne qui est faite dans l'illustration, vous l'assumez aussi ? Vous l'avez pas vue, la vanne ?
Non.
Ah bon ?
C'est vous qui avez écrit l'histoire ou...
Non, de quoi ça parle d'ailleurs ?
Écoutez, il y a une vanne. Enfin, moi, je l'ai pris comme une vanne, mais c'est peut-être une... Je vais peut-être avoir un sentiment de solitude au moment où je vais la trouver.
Qui vient de commencer.
J'ai l'impression qu'on s'y achemine sûrement.
C'est lorsque la maîtresse est au tableau, et devant son tableau, la date,
ah
c'est,
oui,
le...
D'accord,
la date
d'accord,
c'est le 10 mai.
Mais de quoi vous parlez ?
Je ne comprends pas. Oui, j'ai vu le 10 mai, oui, en effet.
Tu me dis, voilà, ouais. petit caméo,
ouais,
quoi,
ouais,
petite
ouais,
vanne.
Ouais, ouais.
D'accord, ok.
Absolument.
Et Olivier, non, alors, vous avez fait le même. Olivier, il me regarde, il fait, mais qu'est-ce qui. Ouais. On est venu pour chercher des caméos dans les dessins.
Oui, c'est ça. Vous étiez petit, Olivier, enfant ? Pour Olivier,
oui, bah, généralement. C'est assez récurrent, en fait.
Non, vous étiez des petites tailles.
C'est une galette des rois, Leïla.
Nous retrouverons Leïla demain.
Vous étiez de petite taille, c'est-à-dire que par rapport aux autres, vous étiez plus petit, parce que ce personnage, c'est Olivier, haut comme trois pommes.
Oui, alors ça, c'est une. Alors, on soulignait mon problème d'ego tout à l'heure en ayant appelé le personnage de ce livre pour enfants Olivier. C'est juste que c'est une histoire qui m'est arrivée en fait, dans une émission radio, on m'avait demandé de parler d'un souvenir et j'avais raconté ce souvenir qui souligne bien aussi la nécessité d'avoir plusieurs cordes à son arc quand on est parent. C'est l'histoire d'un gamin qui se lève à 8h pour aller à l'école et qui informe ses parents que c'est Mardi Gras et qu'il lui faut absolument un déguisement. Et c'est là que
et là, donc, c'est le feu dans la
voilà,
maison.
Et c'est le feu dans la maison et ma mère.
Et ça vous est arrivé.
Oui, et ma mère réussit à trouver tout et n'importe quoi pour me faire un déguisement de lapin. Sauf que ce lapin a une longue queue. Très longue queue,
ce qui n'est
pas du tout normal pour un lapin. Et moi, j'étais un garçon, justement, de petite taille. Je mesure 1m74, je suis pas de petite taille. Mais,
totalement d'accord avec vous.
On est d'accord.
C'est totalement, oui, c'est la norme.
Pardon, pour moi, vous êtes de petite taille.
Non, 1m74, nous sommes normaux.
Non, vous êtes petit.
Mais c'est juste que j'ai.
Vous êtes un peu grand.
Comme j'ai déménagé beaucoup, j'étais un garçon assez solitaire et j'avais pas spécialement beaucoup d'amis. Et je savais que ce jour-là, en débarquant à l'école avec ma longue queue de lapin, ce serait le pire jour de ma vie. Donc je me suis mis dans un coin de ma chambre et à refuser de partir, d'aller à l'école. Et mon père a trouvé une étoile de shérif. Il l'a mise sur mon torse. Il m'a dit, ouais, t'es pas un lapin, t'es le lapin shérif, t'es le roi des lapins. Et en fait, je suis sorti de chez moi tellement sûr de moi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est si tu fais pas de lumière, les papillons vont pas venir vers toi. Et donc si tu t'aimes pas, si tu te respectes pas, en fait, c'est des informations que tu vas donner au public et à ceux qui sont en face de toi, à l'autre. Et l'autre va y répondre. Si on se déteste, l'autre risque de vous détester. Mais si on s'aime un peu, si on se respecte un peu, alors ça risque de donner une information à l'autre qui aura envie de vous respecter et de vous aimer. Ce qui fait que quand je suis sorti de chez moi, j'étais tellement sûr d'être le lapin shérif. J'étais tellement sûr d'être un garçon exceptionnel qu'à la fin de la journée, j'avais enfin 3 potes.
Les potes.
Et voilà, ça parle
phrase,
surtout de...
Redites-moi la phrase sur la lumière.
Si tu fais pas de lumière, les papillons viendront pas à toi.
Oui, mais... les moustiques aussi.
Les moustiques aussi.
Mais les papillons, ils vont sur les lampes pour mourir, non?
Oui, mais si vous salissez tout aussi, on va pas terminer à un moment donné.
C'est ça la spécialité.
Non, mais si vous faites trop de lumière...
Vous venez découvrir l'humour belge. C'est tout vide par la mort.
Bonjour.
D'ailleurs, oui, en fin de livre, Leïla, il remercie ses parents.
Oui, je remercie mon père et ma mère d'avoir semé les premières graines, puis de m'avoir laissé pousser comme je le voulais.
Ouais, ma mère m'appelle son funambule. Je suis quelqu'un d'assez d'hypersensible. Et j'ai fait, et je supporte pas la violence. Je suis plutôt versé vers l'artistique. D'ailleurs, je suis content d'avoir cette seconde vie en écrivant des bouquins. Mais j'ai d'abord commencé par des missions humanitaires en ex-Yougoslavie. Puis après, j'ai fait l'armée. Puis après, j'ai fait flic, gardien de la paix dans le 93. Puis après, je suis devenu capitaine, où j'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon, les agressions sexuelles, tout ce qui ne me correspondait absolument pas.
Violence,
et c'est ce trajet dont j'ai eu besoin, ce trajet qui est en fait un trajet vers l'autre. Et c'est exactement ce que je raconte à l'intérieur. Moi, j'ai besoin du regard de l'autre pour m'apprécier. Donc, comment avoir un regard de l'autre positif ? Bah, en étant utile à l'autre. Et donc, tous mes jobs et tout ce que j'ai fait dans ma vie a été dirigé vers l'autre par pur égoïsme. Donc, uniquement pour avoir un regard sur moi qui, en fait, me donnait une place dans la société, une raison d'être. Donc, flic, missionnaire humanitaire, dans l'armée, des choses qui pouvaient être utiles à l'autre.
On en revient à l'un des points communs de toutes ces histoires, Mazarine aussi, c'est qu'il faut soit une morale, soit un enseignement, en tout cas, si on n'est pas dans une morale de façon La Fontaine.
Moi, il y a zéro morale dans mon livre. C'est pas du tout moral. Enfin, ça se termine bien parce qu'il y a de l'amour, mais l'amour, c'est pas moral du tout. Moi, j'ai pas du tout.
Je voyais la morale déjà de trouver celui qui est complémentaire pour.
Oui, mais parce que quand même, faut que ça se termine bien. Elle a un peu le syndrome de la Tourette, la pauvre Madeleine. Elle dit des trucs, il y a des mots qui sortent de sa bouche qu'elle voudrait retenir à tout prix. Mais en fait, qui disent. Alors, le sort, c'est qu'elle dit le contraire de ce qu'elle voudrait dire en réalité. C'est pas tant le contraire que ça. Parce que quand il y a sa petite sœur qui arrive à la maison et qu'elle lui dit mais t'es atroce, je te déteste déjà. Et...
C'est qu'elle doit le penser quelque part un peu.
Elle le pense un petit peu. Quoi.
Voilà,
et non, moi ce qui m'amusait c'était vraiment le travail sur les mots, sur la langue des enfants, sur la dénégation, sur l'agression dont ils peuvent faire preuve et qui en réalité est souvent plutôt une demande, quoi, ou en tout cas ça exprime toujours quelque chose d'autre que ce qui est dit.
Donc sans aller jusqu'à morale, vous êtes d'accord sur la notion d'utilité en tout cas?
Je sais pas.
Parce qu'un
Je sais pas ce que se dit un enfant lorsqu'il entend l'histoire. Je sais juste que ça parle de lui. Je sais que ça le fait marrer. Donc ça, c'est déjà très important.
Parce qu'en fait, ils ont
un humour très très développé, les enfants. Moi, j'ai toujours été étonnée du sixième degré des enfants, parce que c'est quand même.
Ça peut être trash aussi.
Ouais. Et donc, quand il rigole, c'est que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il entend. Il entend quelque chose derrière l'histoire, mais pour autant, moi, j'ai pas cherché à y mettre de moi, parce que précisément, je pense qu'on peut pas se mettre dans la tête d'un enfant, et donc c'est très difficile d'avoir une intention claire et de convertir cette intention en un livre avec une morale, etc. Donc en tout cas, moi, j'ai pas procédé comme ça, ce qui veut pas du tout dire que j'apprécie pas d'autres manières de faire, mais voilà, moi, j'ai pas du tout travaillé dans ce sens-là.
Olivier Norek,
j'ai beaucoup aimé le livre de Mazarine, parce que, enfin, le livre pour enfants de Mazarine, parce que...
Oui, parce que les autres, non.
Nous sont tombés des mains. C'est l'utilité du mensonge social. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, en fait, à mentir un peu. Sinon, ce serait
invivable. On appelle ça la diplomatie.
C'est ça. L'utilité du mensonge social qui fait qu'en fin de compte, on réussit à vivre ensemble. Parce que si un jour, on se réveillait un matin en se disant, voilà, aujourd'hui, je décide de dire
toute la vérité,
toute la vérité et tout ce qui me passe par la tête avec une franchise absolue. Vous, normalement à 14h vous avez déjà 3 contrats sur votre tête et vous rentrez pas à la maison. Et donc c'est
on retrouve le policier.
Non, le jour un peu,
c'est génétique, c'est dans l'ADN. Mais voilà, il y a ce plaisir un peu interdit de se dire, bah un matin je vais me lever et je vais enfin dire les 4 vérités sur les gens qui m'entourent.
Chose, en tout cas, c'est vrai que c'est un fantasme que tout le monde a, non?
Oui, bien sûr.
Un jour de dire la vérité.
Ouais, bien sûr.
De la dire ou de l'entendre aussi, parce qu'il y a des
gens. Ça ne m'intéresse absolument pas.
Ça ne m'intéresse pas.
Laissez-le tranquille.
Je ne pensais pas mettre le doigt sur un problème.
Comme ça, les gens pensent qu'on rigole dans les chroniques, en fait, pas du tout.
C'est ça. Mazarine Pinjot et Olivier Norek sont nos invités. Je rappelle que c'est publié chez Michel Lafonco, édité avec Inter. Madeleine et le mot et les mots qui fâchent Mazarine Pinjot et Olivier Norek, le lapin shérif. Histoire vraie, donc, le tout illustré par Marcel Pixel pour Olivier Norek et par Amélie Lafetteur pour Mazarine Pinjot. Elle a un corps d'enfant, mais un humour d'adulte.
Voici. De lapin.
Voici Fanny Ruet, c'est plus beau lancement. Oui, c'est le meilleur.
Coucou les zouzous. Bon, la COP26 a lieu en ce moment à Glasgow, donc 12 jours de conférences sur les changements climatiques, donc comme un festival, mais sans drogue et sans bière, ce qui n'a pas dû arriver souvent à Glasgow. Donc forcément, il y a pas mal d'articles qui sortent en ce moment pour réduire de manière conséquente notre empreinte écologique. Et parmi les arguments avancés, les solutions avancées, devenir végétarien, premièrement, ne plus prendre l'avion, renoncer à sa voiture, mais surtout le plus efficace, arrêter de faire des enfants. Puisque...
C'est le jour où il fallait en parler.
Bravo. Oupsie. Je suis en train de tuer votre public. Bien que je ne dise... Bref. Parce qu'en vrai, un bébé, c'est 58 tonnes de CO2, gaz à effet de serre, par an. C'est un gros bébé, donc tu m'étonnes que ça sert. Avoir un gosse, ça pollue plus que l'avion et la voiture réunies, alors que l'enfant ne sert même pas de moyen de transport. Sauf s'il fait partie d'un mouvement de jeunesse, alors là, tu peux te déplacer en scout. Mais,
je viens de comprendre.
Mais clairement, on le voit, l'argument écologique ne suffit pas pour que les gens fassent moins d'enfants. Regardez autour de la table, c'est même plus des familles que vous avez, c'est des portées. En vrai, on s'en fout un peu de la planète, hein. C'est même plutôt pratique que les poissons ils soient livrés avec du plastique à l'intérieur directement. C'est un peu comme un tout petit emballage pour les arêtes. Et les catastrophes naturelles dues au climat, en vrai, c'est devenu la norme, hein. Il y en a tout le temps, donc on s'en fout. Concrètement, aujourd'hui, les catastrophes naturelles, c'est devenu comme la Star Academy. On se rappelle de toi que si tu faisais partie de la première. Donc, vu que l'argument écologique ne suffit pas, l'ONU m'a contacté. Et oui, je suis dans leur petit papier depuis que j'ai gagné le prix Nobel de médecine l'an dernier. À la suite de ma découverte du fait que la sérotonine est composée à 50% de reblochon. Mais donc l'ONU m'a demandé de trouver des manières de convaincre les gens de faire moins d'enfants. Et pour moi, l'argument ultime, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour évidemment. Parce que si vous croyez au principe d'âme sœur, concept inventé à Dunkerque en 1986 quand ils ont voulu dépénaliser l'inceste. Si vous croyez au principe d'âme sœur, j'espère que vous réalisez que plus on est sur scène, plus ça va être difficile de la trouver. En fait. Donc pensez-y, on va se retrouver comme sur Netflix, avoir tellement de choix qu'on hésite pendant 1000 ans et on finit par juste se retaper le même vieux truc chaque année. Donc non, laissons à la planète ce petit côté intimiste. Quand il y a trop de gens à un endroit, c'est impersonnel, on s'entend plus et Indochine risque de profiter de la foule pour faire un concert. Donc non, gardons ça intimiste, The Earth Unplugged. Parce que l'humanité, c'est comme une fête. Il y a de l'alcool, mais en quantité limitée. Et plus on est, moins chacun en aura. Et en 2021, on est clairement déjà à l'étape où il est 3h du mat, on est à sec. Il y a un groupe qui est parti au night shop pour racler les fonds de frigo et va revenir 45 minutes plus tard avec des Heineken. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un bac de Heineken qu'on veut laisser à nos enfants?
Non.
Donc soyons égoïstes, sauvons la planète, pensez à vos enfants et n'en faites pas.
Merci, Fanny.
Et on se retrouve tous les mardis et mercredis à la Scala,
jour, hein.
À Paris, et en tournée partout en France.
Alors que je pensais que c'était pas le mien, mais oui. Le podcast de Mazarine Pinjot a donné ça.
Madeleine est une petite fille très, mais très gentille. Si douce, si sage, toujours à l'écoute de ses parents. Elle a appris à parler très tôt. Et les adultes l'applaudissent quand ils l'entendent faire des phrases compliquées avec des mots aussi savants que réciproquement, quotidien ou solennel.
Tout ça est un à jour, suivre, c'est un podcast évidemment, mais la fin...
Voilà, l'histoire n'est pas finie.
N'est pas finie.
Et maintenant, pas au lit.
Non, une autre.
Et l'histoire d'Olivier Norek.
Je m'appelle Olivier. La première lettre de mon prénom est un O. Et ma maman me dit souvent que c'est parce que je suis haut comme trois pommes. Est-ce que tu m'entends quand je te parle ? Je préfère demander parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne m'entend jamais.
Alors, est-ce que là aussi, les auteurs ont leur mot à dire sur le choix des voix, la réalisation, la mise en onde, ou c'est un autre métier ?
Le choix des voix, c'était nous.
Donc, moi, je l'ai fait avec ma cousine, avec qui, en fait, on a commencé à se raconter l'histoire ensemble. Et elle est comédienne, par ailleurs. Et donc, c'est elle qui a fait toutes les voix de la sorcière, des parents, de la grand-mère, enfin, et de la petite fille. Donc, c'était très marrant à faire. Très, très marrant.
Donc, c'était intéressant de s'impliquer jusqu'au bout du processus.
Ouais, tout à fait. Créatif. Du processus. Et, moi, j'ai toujours voulu faire des chroniques.
Au procédé. Au processus,
ouais. J'ai toujours,
Olivier. Hein,
oui, aucun souci. J'ai toujours aimé faire des chroniques police ou des chroniques judiciaires en radio. Et donc, quand on m'a proposé d'enregistrer cette voix, je me suis dit que c'était un bon test pour voir si c'était quelque chose que je pouvais gérer.
Absolument.
J'ai beaucoup aimé faire ça.
Ouais. C'est une réussite. C'est d'abord, globalement, la série est une réussite et vos histoires nous embarquent. Ce qui est quand même agréable pour un parent, c'est de la lire à son enfant, avec tout le respect que je dois à vos travaux que vous avez fait et au podcast. C'est bien de l'incarner soi-même, non ? D'être.
Ouais, mais parfois on est content quand on est très très fatigué le soir et qu'on n'a pas du tout envie de passer trois plombes à coucher son enfant.
Oh, elles vont bien.
Moi, les miens, ils sont grands maintenant.
On est juste une béquille.
La musique dans vos vies. Tout à l'heure, nous parlerons avec Fabrice Pillot, qui est rédacteur en chef des livres Hebdo et de la nouvelle mode. On parlera de la nouvelle mode de la littérature jeunesse avec lui. La musique dans la vie de Mazarine Pinjot. On a vu qu'elle était très fragile d'ailleurs sur les goûts musicaux. Et Olivier Norek. On va commencer avec vous, Mazarine. Vous écoutiez Sylvestre.
Ta serrure n'est pas forte maison, tu n'as pas de clé, mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit.
C'est un conte pour enfants aussi.
Alors, ça c'est un peu une chanson pour adultes d'Anne Sylvestre quand même. Comment dire ? C'est pas tout à fait ce registre-là que j'écoutais quand j'étais gamine. Mais elle est sublime cette chanson. C'est une chanson sur le viol et tout. Elle est démente. Mais quand j'étais enfant, c'était plutôt « J'ai une maison pleine de fenêtres ». Enfin, c'est Anne Sylvestre aussi. Ou « Mon œuf est tout neuf ».
J'adore cette chanson.
On se l'est chantée tout à l'heure.
Donc vous avez grandi avec Anne Sylvestre.
Ouais. Ouais, j'ai beaucoup écouté. J'écoutais pas beaucoup de musique. Et puis, quand même, il faut se souvenir que nous sommes maintenant très âgés. Et qu'il n'y avait pas autant de moyens d'écouter de la musique. Non, mais c'est vrai. Enfin, il fallait avoir les disques, le tourne-disque.
Il n'y avait que la radio et les radios.
Et la radio.
Les radios n'en passaient pas beaucoup.
Mais c'est ça. Donc, on n'avait pas autant de choix. Et donc, moi, je me souviens d'avoir des. Exactement. Et pourquoi ?
Et pourquoi ? Liberté des ondes.
Que s'est-il passé ?
Et il y a un parallèle avec le personnage d'Olivier Norek, finalement. Ce petit garçon qui souffre d'une forme d'invisibilité à l'école. Il y a un parallèle à faire avec votre enfance. Mazarine, vous dites que vous avez une sorte de rapport amnésique à votre enfance, que les gestes anodins du quotidien, comme aller faire la queue à la boulangerie, tenant la main de son père, ça, c'est des scènes qui ne se sont pas produites.
Ouais, c'est vrai. C'est le moment où on pleure, là, ou c'est...
Non, mais c'est vrai de se rendre compte que des histoires ou des contes peuvent être aussi des histoires vraies dans la vie, oui.
Ouais, non, mais complètement. Enfin, le moment de l'enfance, et c'est pour ça, je pense, que j'avais peur, moi, d'écrire pour les enfants, parce que je trouve que c'est tellement compliqué en enfance, c'est tellement à la fois intelligent, pervers, qui a compris beaucoup de choses et qu'on oublie, en fait, au fur et à mesure où on grandit, qu'on peut pas la voir, quoi. On peut pas tricher et c'est la raison pour laquelle moi j'ai mis beaucoup, c'était un fantasme d'écrire pour les enfants et aussi parce que bon, sans doute c'est vrai que j'ai un souvenir de l'enfance un peu étrange, on va dire. Et
vous voulez en parler?
Alors je m'allonge et puis bon. Et voilà, et donc je trouve que je me suis toujours méfiée, moi, des enfants. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient dangereux, avant d'en avoir. Ce qui a beaucoup calmé mon rapport aux enfants. C'était un vrai challenge d'arriver à écrire un livre pour enfants.
C'est marrant quand vous dites on ne peut pas mentir à un enfant. Or, c'est les premières choses que l'on fait, ne serait-ce qu'avec le Père Noël ou la petite souris. C'est-à-dire qu'on est dans le mensonge permanent.
Mais c'est pas vraiment un mensonge. La fiction est pas un mensonge. Alors ça devient un mensonge quand vraiment l'enfant est à même de comprendre que c'est pas vrai et qu'on continue de lui dire que c'est vrai. Mais je dirais pas que ce genre de mythe relève d'un mensonge.
Donc, il y a une différence
entre... qu'on a besoin de la fiction pour
raconter
accompagner
une histoire et dire un mensonge, c'est pas la même chose, c'est ça?
Ah non, pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de vérité dans les histoires.
Et quand on grandit, quand on vieillit, on essaie de reconstituer aussi son histoire familiale. Et quand cette histoire s'est déroulée sans témoin, c'est aussi une autre histoire à raconter, à chercher.
Bien sûr que l'enfance, elle est souvent et beaucoup racontée par les autres, par les albums de photos, par les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Alors, personne n'a jamais la même vision, ni les mêmes souvenirs.
C'est ce qui est intéressant.
Il faut reconstituer le puzzle. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas, quand il n'y a pas trop de voix extérieures qui viennent confirmer que vous avez bien vécu, c'est plus compliqué. Une forme de sentiment d'irréalité, un peu comme ça, et qui fait que le souvenir devient toujours suspect, s'il ne peut pas être confirmé. Par ailleurs, quoi.
Vous voulez en parler,
Olivier? Olivier Norek, vous écoutiez dans ces années 70 Neil Diamond. There's a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. Ah, la voix du Playboy parfait, quoi.
Neil Diamond.
Alors c'est plutôt la bande originale du film.
C'est la bande originale du film Jonathan Livingston, Le Goéland, et vous allez voir qu'il y a toujours le même rapport, en fait. C'est Jonathan Livingston, c'est donc un goéland à qui on interdit de voler au-dessus des nuages, à qui on interdit d'en fait de se déployer, d'être qui il est. J'ai toujours l'impression que nous tous, on n'est que 20-30% de qui on devrait être, toujours à cause du regard de l'autre qui nous juge, qui nous freine, qui nous empêche.
Ouais.
Voilà. Résultat, on interdit à ce goéland de voler au-dessus des nuages et son seul but, ça va être d'aller encore au-dessus de tous les autres. Et pour ça, parce qu'il est allé plus loin, parce qu'il a refusé sa condition, il va être répudié de sa propre famille. Parce que, en fin de compte, il est sorti de sa case, il est sorti de ce qu'on lui a demandé de faire. Il est devenu merveilleux, magnifique, et en devenant merveilleux, il a montré aux autres qu'il pouvait le faire aussi, mais il les a culpabilisés de tout ça. Donc il a été rejeté pour sa différence, et rejeté aussi parce qu'il avait envie de se dépasser. C'est nos histoires. Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Qu'est-ce que ça va créer? Comment les autres vont nous regarder? Mais c'est justement c'est une métaphore sur le fait que oui, si on n'est que 20 ou 30% de qui on est, alors qu'est-ce qu'on serait si un jour on se déployait? Qu'est-ce qu'on serait si un jour on faisait vraiment toute la lumière qui est à l'intérieur de nous? Eh bien, on deviendrait merveilleux et on deviendrait Jonathan Livingston, le goéland.
Et il y a aussi ses ailes de géant l'empêchent de voler.
Ça, c'est un albatros.
Oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, on est dans
mais c'est exactement ça.
Cette idée-là aussi. Et de ceux qui s'amusent de vous.
De ceux qui essayent.
De vous empêcher.
Voilà, de ceux qui restent assis et qui s'amusent de ceux qui essayent.
C'est juste un petit parallèle que je me
Mais c'était brillant.
Et vous, Olivier, votre existence, elle prend racine finalement dans un milieu plutôt lettré. Votre mère était directrice d'école. Votre père connaît bien cette maison, Radio France, puisqu'il en a été le directeur général. Général.
Oui, pendant assez longtemps, oui.
Donc vous avez été bercé finalement à la maison par quoi?
Par France Inter. Regardons quel état ça
met. Non, c'était plus tardif, c'était de 99 à 2004 pour Claude Norek.
C'était très important tout ce qui était livre et musique. Et en plus les goûts étaient assez éclectiques, ce qui fait qu'on avait des musiques yiddish, on avait des musiques de chant marin, on avait Le Fantôme de l'Opéra, on avait Neil Diamond, on avait des chansons cajun. Donc voilà, moi j'ai et tout ça nous permettait de faire le trajet de 800 km pour partir en vacances dans la Super 5 familiale. Donc on écoutait beaucoup de musique. Et puis les livres aussi.
Mais aucun succès apparemment, hein. que des musiques.
Oui, les succès, on les entend.
Non, je veux dire, pas les tubes.
Non, pas les tubes, on n'était pas très tubes.
Voilà, c'est ça. Pas Joe Dassin, pas Claude François, pas.
Ah, bien sûr, il y avait tout ça à la radio, mais en fin de compte, c'était pas ce qu'on écoutait nous à la maison. D'accord. Et puis la littérature, c'est quelque chose qui a été très très important. Moi, je pars du principe que la littérature permet de pas aller tout le temps vers la violence. En fait, le choix des mots, savoir utiliser les mots, savoir argumenter, savoir parler.
Oui, il y a des mots qui blessent.
Bien sûr, mais on dit débattre avec les mots. Et puis quand on les a plus, c'est se battre avec les poings. C'est-à-dire que moins on a de capacité à argumenter, moins on a de capacité à pouvoir rétorquer ou à avoir le bon mot au bon moment, plus rapidement vient l'insulte, plus rapidement vient l'énervement et plus rapidement vient la violence. Et je pense que plus on lit et plus on a les mots, et plus on a les mots, moins c'est normalement on a recours à cette
violence. C'est ce qu'on entend dans l'éducation. On parle des enfants aujourd'hui, les parents qui finissent par être violents, c'est quand ils sont à bout d'arguments et qu'ils ne savent plus quoi dire comme mots, et qu'ils en arrivent à lever la main ou sortir la ceinture pour reprendre
des images. Et puis de temps en temps, c'est soulage.
C'est ça.
Débrouille-toi avec ça.
Ouais, ouais. Allez hop,
tu en parlais.
Tu veux t'allonger, ouais. En 97, vous écoutiez Mazarine, David Bowie. Bah, c'est à partir du moment où vous pouvez choisir votre propre musique, Bowie.
Bon, j'ai tout de suite assez rapidement pu choisir ma propre musique. J'ai assez peu écouté de musique pour enfants, donc à part Anne Sylvestre. J'écoutais pas, à l'époque c'était Chantal Goya, Dorothée, tous ces trucs. Mais moi je l'écoutais pas parce que je regardais pas la télévision. Donc j'étais très peu au courant, j'avais pas du tout les mêmes références que...
Les mêmes codes dans la cour de récré,
ouais,
c'est ça? Ouais.
Exactement. Et donc quand j'ai commencé à écouter ma propre musique, en effet, Bowie était un peu dans mon panthéon.
Comment on tombe sur Bowie? C'est-à-dire qui prescrit, qui conseille, qui dit tiens, tu devrais écouter ça?
Ouais, c'est vrai, je sais pas, c'est les copains, c'est vraiment les copains. Après, c'est les copains, les cousins, parfois plus âgés, qui écoutent des trucs,
Un fiancé?
Ouais.
On est en 98, Mazarine, c'est la sortie de votre premier livre qui s'intitule Premier roman. Une sortie qui a été douloureuse puisque les attaques, parce que c'est un livre qui a été très relayé dans la presse, et vous ne vous l'aurez pas à l'époque, considérant parce que c'est le livre de la fille de François Mitterrand, et donc c'est des critiques aussi qui sont très violentes, très, très acerbes, comme s'il y avait un règlement de compte interposé, ouais.
Oui, et puis surtout qu'il parlait pas beaucoup du livre. Enfin bon, mais bon, ça, en même temps, c'est quelque part, j'étais pas moi très étonnée.
Ça fait toujours mal.
Sûr, ça fait toujours mal. Mais je veux dire, j'étais déjà tellement habituée à cette violence-là. Elle m'était pas directement dirigée avant, mais c'était comme une sorte d'héritage direct. Ce qui était violent, c'est d'être tout de suite mise sur la touche comme. À nouveau comme quelqu'un d'illégitime en fait. Qu'on ait décidé que à partir du moment où j'étais la fille de mon père, j'étais donc pas légitime pour la littérature. En fait, c'est toujours la même histoire qui se rejoue. Et je pense que d'ailleurs il y a pas de hasard, hein. C'est illégitime un jour, illégitime toujours. Il y a quelque chose comme ça quasiment inconscient dans la manière dont j'ai été traitée. De manière, en effet, tout à fait excessive, on va dire, par rapport au livre, qui était pas un chef-d'œuvre, mais pas non plus. Enfin, voilà. En tout cas, c'était excessif, c'était disproportionné, c'était pas vraiment en rapport avec le livre. Et c'est comme ça. Il y a une sorte de malédiction comme ça qui nous poursuit.
Comment se battre avec ça?
On est assez impuissant justement parce que lorsque vous êtes seul
et qu'on se fait une carapace de je m'en fous et dis ce que vous voulez, je continuerai.
Oui, il y a une forme de dissociation. On est habitué, il y a une forme de violence à laquelle on est habitué, c'est comme ça. C'est vrai que le sentiment d'impuissance est parfois un petit peu rageant, parce qu'on peut rien faire.
J'ai l'impression que si vous aviez fait un effort pour le titre, ils auraient été plus cléments.
Non? Peut-être. Mais évidemment que la question qu'on se pose, c'est mais peut-être que si ça avait été mieux, on m'aurait lâché. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, il y a une forme de dissociation et puis voilà, il y a une acceptation. C'est comme ça. Le réel peut être dur et on n'y peut rien.
Et à l'inverse, quand le lecteur n'était pas franco-français au sens presque politique du terme, la réaction était totalement différente.
Ah oui, quand je vais en Belgique d'ailleurs. Non mais c'est vrai, tous les écrivains vous diront, pas uniquement moi, qu'il y a un rapport à la critique en Belgique, en Suisse qui n'a rien à voir. Non mais c'est vrai, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux, quoi. Et il y a pas du tout les enjeux parisiens qui sont quand même très présents.
Une bienveillance que vous avez rencontrée, mais ailleurs.
Oui, et puis on parlait du livre, quoi, en fait.
Oui, une objectivité.
Olivier Norek, vous écoutiez Prodigy. Magic people, voodoo people.
Vous écoutez France Inter. Ok, let's go.
Et dans ces années-là, Olivier...
Vous preniez de la drogue.
Alors, apparemment, et justement...
Visiblement, oui.
Et c'est pour ça que vous avez décidé de devenir gardien de la paix, parce que le stock est là-bas, en fait. Vous dites que vous décidez à trouver un vrai job. Dans des interviews, vous dites vraiment vrai job, comme si avant, C'était pas...
Non, c'était le job qui allait me permettre de faire enfin ce que je voulais, c'est-à-dire enfin d'être là au moment immédiat. Où je peux être utile. Mmh. C'est-à-dire voir l'autre en cassure, en blessure, en fêlure, l'autre en peine. Donc souvent, le quotidien d'un flic, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Mais c'est aussi les situations les pires. On retrouve toujours les gens en cassure. On retrouve toujours les gens dans des situations complexes. Et se dire qu'à un moment donné, on peut leur être utile, c'est quelque chose de totalement épanouissant. C'est quelque chose de totalement... en tout cas, moi, ça me complète.
Et c'est pour ça que vous avez choisi le 93.
Et c'est pour ça que j'ai choisi le 93, pas par dépit.
Choisi.
Oui, pas par dépit, parce que j'ai, allez, allons-y. J'ai terminé parmi les premiers à cette école. Non, parce que je me dis que quitte à être utile, autant aller dans le département le plus criminogène de France pour être sûr de faire les choses correctement. Et Prodigy, c'était la période juste un petit peu avant, quand c'était plutôt rave party et boîte de nuit et que je me disais pas du tout que j'allais devenir flic. Mais voilà, ça, Prodigy, c'est un groupe qui m'a accompagné quasiment toute ma vie.
Vous dansiez, vous partiez en transe, oui, c'est ça?
Non, pas du tout, j'allais juste en boîte.
Oui,
mais il n'y a pas de problème.
On peut être en parler ou pas? Pardon, non, je ne vais pas en parler, ni en parler, ni m'allonger. Et donc après, je suis devenu policier. Voilà, passons.
Très bien. Accueillons Fabrice Piau. Bonjour, Fabrice. Vous êtes rédacteur en chef de livres Hebdo. Nous parlons de la littérature pour enfants avec des auteurs de littérature, point. La passerelle a toujours existé ou elle est particulièrement évidente en ce moment ?
Elle a toujours existé. D'abord, je pense que c'est une passerelle qui est un petit peu clandestine, un peu cachée malgré tout. Vous parliez tout à l'heure, il s'agit de la musique, mais vous parliez d'Anne Sylvestre. Je pense qu'il y a quand même une grande partie du public qui ne connaissait que son œuvre pour enfants et qui ne connaissait absolument pas son œuvre pour adultes. Et on retrouve ces difficultés de passage
comme
dans la littérature.
Comme un Jean de La Fontaine, où on connaît beaucoup ses fables et pas ses œuvres.
Roald Dahl, tout à fait. Et quand on voit, par exemple, les difficultés aussi qu'a obtenu même une auteure comme J.K. Rowling, archi connue avec Harry Potter, pour passer à la littérature adulte au point qu'elle a commencé par prendre un pseudonyme de Robert Galbraith pour y arriver, c'est pas évident. Maintenant, il y a des écrivains depuis longtemps finalement, depuis plusieurs décennies, qui se sont exercés aux deux. Hein. Je pense à Michel Tournier par exemple, qui a vraiment une œuvre dans les deux domaines. Il y en a d'autres plus récemment, Claire Castillon. Geneviève Brisac, Agnès Duperman, de Sarthe, enfin on peut en citer un certain nombre. Je crois quand même, ce qui est intéressant, parce qu'on parle de parallèle entre, de passerelle entre littérature adulte et littérature jeunesse, déjà un des éléments qui permet qu'il y en ait, c'est qu'aujourd'hui on parle de littérature jeunesse, je pense que ça n'a pas toujours été le cas, on parlait de livres pour enfants, avec... finalement des auteurs qui étaient peu connus malgré des... Bon, bien sûr, il y a eu côté anglo-saxon Enid Blyton, où il y a eu côté francophone la comtesse de Ségur, mais si vous voulez, on est pour un comme ça, en fait, un ou une comme ça, on a des dizaines ou des centaines d'auteurs qui vendent des dizaines de milliers de titres et qui ne sont pas connus. Est-ce que vous connaissez Christelle Dalbos? Est-ce que vous connaissez, peut-être Timothée de Fombelle, mais ils ne sont pas massivement connus, alors que c'est des auteurs qui vendent des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Et c'est de la littérature.
Et celui qui est l'équivalent du prix Nobel pour de littérature, c'est un Français.
Pardon,
L'auteur français qui a obtenu l'équivalent du prix Nobel de littérature pour littérature jeunesse. Jean-Claude...
Vous me posez une colle.
Ouais, je l'ai trouvé.
Il y a un prix Astrid Lindgren.
Il l'a eu là, cette année.
Je me souviens plus.
Il l'a eu cette année.
Pourquoi ce problème de considération? Parce qu'on estime que c'est facile,
Je ne sais pas si c'est parce que les enfants sont dangereux, comme le disait Mazarine Pinjot. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on leur fait un procès en illégitimité. Il y a la vraie littérature, c'est la littérature pour adultes. Voilà, il n'y a pas de...
Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu les circuits de promotion, de production qui font qu'on en entend moins parler parce que... là vous invitez des auteurs parce qu'il y a des livres pour enfants, mais finalement nous on vient de la littérature adulte. Il n'y a pas d'auditeurs enfants quoi pour les émissions de télé, les émissions de radio, donc ça participe de la chose.
Il n'y a pas de critique pour la jeunesse quasiment. C'est très très faible. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer, qui va avec l'évolution de la place de la jeunesse dans notre société. À une époque il y avait les enfants dans leur case et puis à un moment ils devenaient adultes. Aujourd'hui la jeunesse c'est un processus très long. On parle aujourd'hui, il y a une littérature qu'on appelle young adult dans le jargon, donc pour jeunes adultes. Finalement, la jeunesse, c'est quoi en fait? Ça commence à quel âge et ça va jusqu'à quoi? 25 ans peut-être. Donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Après, je pense que les circuits, oui, c'est tout le circuit de promotion en fait. C'est la presse, c'est les médias, qui ne traitent pas la littérature jeunesse de la même manière.
C'est Jean-Claude Morleva qui a reçu
Jean-Claude Morleva, tout à fait.
On ne partirait pas les mains vides.
La rivière à l'envers et ouais. D'autres titres de ce genre.
L'enfant océan.
Merci Fabrice Pio d'être venu à notre micro. Le rédacteur en chef, je rappelle, de Livre Hebdo. On va continuer évidemment avec Mazarine Pinjot et Olivier Norek d'évoquer cette collection Une histoire et au lit. Collection avec énormément d'auteurs, hein, mais on va en parler. Puis c'est 21 millions d'écoutes en podcast sur Inter. Mais d'abord, voici le héros du jour, Daniel Morin.
Les amis, qui ne connaît pas, qui n'a pas un souvenir ému, qui n'a pas un jour mangé un triangle de vache qui rit? D'aucuns diront, oui, la vache qui rit n'est pas du fromage. Alors, ils n'ont pas tort, mais c'est une raison pour stigmatiser ce morceau de rêve qui nous ramène en enfance. Une enfance malheureuse, certes, mais une enfance quand même. Du coup, mon héros du jour n'est pas la vache qui rit. Mon héros du jour, en revanche, aurait très bien pu être notre invité de ce matin, ici présent, Olivier Norek. Absolument, un homme connu pour écrire des romans policiers au contenu hyper violent et qui vient nous voir pour évoquer une histoire pour bambins. Et ça, à mes yeux, c'est un héros. Quand on m'a dit, il y a Norek qui vient pour une histoire pour gamins, j'ai tout de suite eu comme un fantasme de mélange des genres. J'ai immédiatement imaginé une histoire du style... Il est 23h, confortablement installé dans son canapé en paille, l'âne trottant regarde un petit porno chevalin. D'un seul coup, la porte du salon vole en éclats. C'est Petit Ours Brun qui vient de la défoncer. D'habitude, si placide, Petit Ours Brun est pris d'une folie meurtrière. Armé d'une hache, il fend la tête de l'âne trottant, puis le viole. Alerté par les voisins, arrive la patte patrouille. Petit Ours Brun est emmené au poste, il est enfermé. 3h du mat', Petit Ours Brun est en larmes, il réalise son coup de folie qui a coûté la vie à celui qui était jadis son meilleur copain, l'âne trottant. Petit Ours Brun s'en sortira-t-il? Petit Ours Brun réussira-t-il à échapper à la vendetta déjà orchestrée par Dora l'exploratrice, l'ancienne maîtresse de l'âne trottant, qui a juré de le tuer? Tout ça, vous le saurez en lisant la dernière nouvelle pour enfants signée Olivier Norek, le roi du polar, une histoire effrayante intitulée Nounours, il va crever. Là, pour ça, Olivier Norek aurait très bien pu être mon héros du jour, mais étrangement, il n'en est rien. Pourquoi? Parce qu'un autre homme s'impose, mais de façon éclatante. Oui, comment ne pas décerner le titre de héros du jour à Joe Biden? Figurez-vous que le président américain, qui se trouve à Glasgow pour la COP26, aurait commis l'impensable. Joe Biden discutait avec Camilla Parker Bowles, la femme de l'héritier de la couronne britannique, et tout en parlant, tranquillou, il aurait pété.
Mais non.
Si, une flatulence qui, selon le Daily Mail, aurait été longue, bruyante et impossible à ignorer. Est-ce qu'on peut faire
c'est
plus
précis.
Détendu que ça?
Ça, c'est de l'enquête, ça, c'est
hein
précis.
Est-ce qu'on peut mieux que ça illustrer le relâchement? Non. Joe est vraiment mon héros, c'est pour ça que j'en appelle ce matin, mais de façon solennelle, aux organisateurs de la COP26. Messieurs.
Pour les émissions de gaz.
À l'occasion du sommet de la sauvegarde du climat, qui représente la COP26, je vous demande de remettre le prix spécial à Joe Biden, le président américain. Sans dire un mot, comme vous l'avez deviné, Nagui a démontré l'étendue des ravages des gaz à effet de serre sur notre environnement. Joe Biden mérite donc, et amplement, le titre très très convoité de héros du jour.
Merci, Nagui. Tanguy Bastureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je veux parler d'Emmanuel Macron qui est très fort. Hein. À la base, j'y croyais pas trop, mais là, hier, avant même qu'il parle, il y avait 100 000 prises de rendez-vous Doctolib pour la troisième dose. C'est de l'hypnose. Avant qu'il parle.
Oui, mais c'est
fou.
C'est envoûtant.
Incroyable.
Mazarine Pinjot signe Madeleine et les mots qui fâchent avec les illustrations d'Amélie Lafetteur. Tout ça aux éditions Michel Lafon. Comme Olivier Norek avec le lapin shérif et les illustrations de Marcel Pixel. Cela donne des podcasts en famille pour Mazarine et portés par sa propre voix pour Olivier. Et puis il y a beaucoup d'autres impétrants comme Daniel Morin.
Et Bouboule, la poule trop cool.
Et Bouboule. C'est toi qui as fait la voix aussi?
Ouais, j'ai tout fait.
D'accord.
Et il y a Hélas Slimani.
Thomas VDB aussi.
Ouais, il y a plein, il y a une quantité.
François Morel.
François Morel, Eva Bester.
Et Omar Sy aussi a fait une très belle série Histoire.
Et moi, mais tout le monde s'en tape.
Et
ouais, j'en ai fait une aussi.
Oui, mais tout le monde s'en tape.
Coucou, coucou.
C'est la bande originale avec Leïla Kazoumoudadi, Morgane Galignan, Fanny Ruet, Tanguy Pastureau, Daniel
Morin
et nos invités Mazarine Pinjot et Olivier Lorac. Avec cette série Une histoire et Oli, comment s'est passée d'ailleurs la rencontre entre guillemets Mazarine Pinjot, Olivier Norek? On vous a contacté, vous avez entendu parler, c'est votre éditeur qui vous a dit ça serait bien si vous avez une idée ou vous avez toujours eu envie, comment s'est passé?
Non, moi c'est Léonard Biot qui s'occupe donc de cette collection, qui me l'a proposé et j'ai mis vraiment beaucoup, enfin il me l'a proposé il y a très longtemps et j'ai un peu laissé de côté cette proposition en me disant enfin voilà, j'avais pas.
Vous avez douté. Vous avez du mal avec les mots quand même pour
une j'ai beaucoup de mal, ouais. Et mais c'est pour ça que je suis obligée de les écrire, parce qu'à l'oral, ça sort pas.
Et parce qu'il y a des mots qui fâchent aussi. Mais est-ce que vous avez douté? Est-ce que vous avez dit, en suis-je capable?
Oui, non, mais c'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite. Et en fait, c'est vraiment, encore une fois, avec Léonie, ma cousine, où on a commencé à délirer sur cette histoire, où je me suis dit, mais en fait, il faut que je l'écrive. Et donc là, j'ai recontacté Léona, je dis, bah voilà, j'ai écrit l'histoire, et après, ça s'est fait très vite.
Quand vous écrivez ce genre d'histoire, vous le faites à l'oral, presque avec un dictaphone, ou vous l'écrivez réellement au sens papier-crayon du terme?
Il y a des allers-retours. Alors papier-crayon non, ordinateur. non mais, enfin, d'abord on se l'est raconté, ensuite je l'écris, je l'ai structuré, voilà. Après on la lit, après il y avait quand même le crash test avec les enfants. Parce que c'est très important. Et après on coupe, on réaménage, oui, enfin il y avait des allers-retours.
Il y a aussi une notion de rythme, de durée.
Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une idée suffit pas. Enfin, ça, c'est comme pour tout livre, mais encore plus pour les enfants. Il faut effectivement à la fois qu'il y ait une histoire, que l'idée se déploie de manière rythmée. Il y a une structure. Alors évidemment, c'est beaucoup moins de signes que dans un roman. Enfin, de signes, c'est-à-dire beaucoup moins de pages, voilà, c'est et c'est beaucoup plus court. Mais donc justement sur une durée courte, faut arriver à être incisif. Et donc c'est un tout autre exercice. C'est comme pour écrire une chanson. Enfin, c'est pas tout à fait le même exercice, mais je me suis toujours aussi intéressée à l'écriture de la chanson parce que je trouve que c'est vraiment comment arriver à raconter une histoire en deux minutes, quoi. C'est un exercice vachement intéressant.
Olivier Norek, vous, l'écriture du Lapin Shérif, on a compris que c'était quelque chose d'extrêmement personnel et extrêmement proche, mais l'écriture, elle est permanente. Là, vous avez un carnet, vous avez un stylo, et pendant toute l'émission, vous notez des choses. Alors, soit vous saoule.
Non, pas du tout.
Soit on vous inspire, je ne sais pas.
Il faut un
oxo. Non, en fait, j'ai toujours un cahier avec moi pour noter au cas où quelque chose d'intelligent serait dit et que je puisse rebondir.
Vous avez noté beaucoup de choses pour cette émission.
Et là, je vous avouez que c'est assez tranquille. J'ai une page blanche pour vous dire la vérité et beaucoup de dessins. Non, sur l'écriture.
Moi, je fais pareil.
Mais quel salaud!
Sur l'écriture. Il n'y a rien non plus, hein.
C'est mérité, là. C'est mérité.
On a jusqu'à 12h30, Olivier.
Sur l'écriture des bouquins pour enfants, moi, j'imagine que j'écris aussi une pièce de théâtre parce qu'en fait, ça va être lu par les parents. Donc, il faut qu'il y ait une facilité de lecture, il faut qu'il y ait une mélodie de lecture et il faut faire attention à ce que les mots se rentrent pas dedans.
Donc, autrement dit, vous l'écrivez d'abord et après, vous le déclamez façon Flaubert,
dans mon gueuloir. Je le joue dans mon appartement et je fais exactement la même chose pour mes romans policiers, pour les dialogues.
Ah ouais?
Les dialogues, c'est de l'orfèvrerie. Un bouquin se casse la gueule uniquement avec un mauvais trait d'humour ou avec les dialogues. Les dialogues, le dialogue, c'est vraiment le personnage qui prend place. Et si le dialogue est mal fait, si le dialogue ressemble pas à quelque chose qu'on pourrait dire dans la vraie vie, par exemple, si c'est beaucoup trop empoulé, eh bien, en fait, le lecteur ou la lectrice ne va pas y croire. Donc tout ça, ça se dit, ça se déclame dans son appartement.
Donc l'écriture doit sonner juste aussi.
Voilà, il faut qu'il y ait une mélodie de l'écriture, ça c'est assez important.
Il est auteur également de la série, t'as retrouvé le titre ou pas?
Le petit garçon et les animaux disparus.
Voilà, Tanguy Pastureau signe aussi dans cette collection Une histoire et Oli, et c'est un podcast également, et c'est toi qui racontes l'histoire?
Oui.
Dans le podcast, sur Inter, le lien d'ailleurs de cette série, il va falloir que je le donne à un moment ou à un autre, mais enfin en allant sur le site de France Inter, vous avez...
Oui. Et sur l'appli.
C'est l'application qui s'appelle Oli, O-L-I, tout simplement. Voici Tanguy Pastureau.
Oh oui, Tanguy. C'est fou le pouvoir qu'Emmanuel Macron sur nous. Nous sommes ces choses, ces petites chiennes. La France est devenue une sorte d'immense jacadie où Emmanuel aurait pris la place de Jacques. Il y a 4 ans et demi, il a déjà pris celle de François. Macron, c'est un Bernard l'ermite sans pince. Depuis mars 2020, quand il dit « Restez chez vous », on reste chez nous. S'il dit « Vous pouvez sortir à 4 km de la Casa », on déclenche le podomètre. S'il dit « Allez-y, vaccinez-vous », on se vaccine. Une dose, deux doses, trois doses. On dirait une vieille choré de Kamel Wally sur une danse de l'été. La picada, la picada, la picada, et on se pique. pique et on se pique dans les bras. À gauche, pique, pique, pique. À droite, pique, pique, pique. Macron, c'est mesmer. Le jour où il nous dira de faire la poule, on sera tous alloués dans la Sarthe en train de caqueter avec les boules en l'air. Tenez, hier, il a parlé à 20h comme à chaque fois, parce qu'il est très prévisible. Hein. Jamais il ne tente un petit 23h10 sur RMC Découvert, juste avant Top Gear. Et ben, avant même qu'il ne s'exprime, Doctolib, une sorte de Tinder qui permet à des patients de faire un date avec un médecin traitant, enregistrer un record de prise de rendez-vous pour la troisième dose. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait à donner un ordre, on obéit. Normalement, ce genre de situation se pratique chez les fans de Sade qui aiment les caves humides et les nœuds marins. Techniquement, c'est de la télépathie. Bientôt, Macron n'aura même plus à parler. À 20h, il s'assiera dans la position du lotus avec trois encens dans le nez. Il regardera fixement la caméra et nous on dira « Ok, président, compris ». Plus besoin de causer. On aura la même relation qu'un couple qui est marié depuis avril 92. Hier, avant même l'allocution de notre gourou transcendantal, 100 000 Français avaient pris rendez-vous. Donc je pense qu'à la limite, il n'a plus besoin de venir. Un Gilles Boulot sur TF1 dira juste Macron, et chez eux, les gens se piqueront avec ce qu'ils ont. Une fourchette, un Big Cat couleur, les griffes de leur chat, les aisselles de leur femme si elles sont déconstruites. Hein, tout ce que dit Macron, on le fait. S'il dit aller au concert de Kinvé, 12 heures avant qu'il se mette à chanter, 27 millions de fans devant Bercy seront en standing ovation et sa carrière sera sauvée. Moi, j'ai pas regardé Macron, j'étais sur Saveur de saison sur France 3, il faisait un spécial langue de bœuf, j'ai cru que ça allait parler des années PPDA, mais bon, en tout cas, je l'ai pas reconnu, et pourtant, en ce moment, il est dans la sauce. Non, en fait, je suis fatigué de tout ça, les vagues de Covid, les vaccins, j'ai envie de retrouver la vie que j'avais avant, ces salons de thé, ces petits biscuits, le grand cirque du rock'n'roll, quoi. J'aimerais vivre en Australie, pays immense, très peu peuplé, pour moi qui n'aime pas les gens, ce serait une aubaine. En Australie, le Covid, ça a aussi peu pris que les Gay Pride à Téhéran. 1400 morts seulement pour 26 millions d'habitants. Là-bas, l'Olivier Véran local, ça fait 2 ans qu'il est en RTT. Il est devenu champion mondial de mots mêlés. Il s'est enquillé tout plus belle la vie. À tel point que dans le Queensland, un des états de l'Australie, le ministère de la Santé vient de lancer une campagne d'infos sur la masturbation. Hein, cette pratique discriminatoire qui repose sur l'exclusion de l'autre. Ils se sont dit, on a un budget, faut bien parler d'un truc. Ils ont départagé entre le cancer de la prostate, les hémorroïdes et la masturbation en faisant plouf plouf. Et c'est la masturbation qui a gagné, comme on dit dans la Légion. Ils ont donc fait un post sur Facebook intitulé « Give yourself a hand », en français « Donne-toi un coup de main », car pour se masturber, on a besoin de sa main. Hein, attention, main libre. Si vous êtes en train de couper des bûches, que l'odeur de bois vous a stimulé parce que ça vous rappelait Geppetto, le papa de Pinocchio, et que vous avez un fait pour les Italiens de 60 ans et plus, surtout pensez bien, avant de vous masturber, à poser votre hache. Hein, et même la télécommande, parce qu'on a vite fait de glisser et de tomber sur Chéri 25. Alors, le ministère de la Santé du Queensland liste les bénéfices liés à la masturbation, il y en a plein. Je regrette d'avoir acheté un jacuzzi gonflable sur Amazon, alors que la solution pour être bien, je l'avais sur moi. Hein. J'ai l'impression d'être Alain Prost et de retrouver les clés de la voiture 32 ans plus tard. Déjà, ça libère des endorphines, alors qu'ils agissent sur le bien-être. Ensuite, nous dit le ministère de la Santé australien, on s'approprie son corps, comme Thomas Pesquet, quand grâce à la pesanteur, il arrive à se ronger les orteils du pied gauche. Enfin, dit le ministère de la Santé, c'est une forme de « safe sex ». En effet, si on est seul, on a moins de risques de s'enfiler la ch'touille. Ou alors c'est qu'on fonctionne en circuit fermé, comme l'eau dans les grands bassins du château de Versailles. Mais la campagne précise, attention, qu'on peut devenir dépendant à la masturbation. Ça permet de relativiser le drame du crack à Paris. On se dit que si au lieu de se droguer, l'ensemble de ces gens se masturbait porte de la Villette, on aurait encore moins envie d'y passer à Vélib. Hein, quant aux émissions de Jean-Marc Morandini sur CNews à la Villette, ce serait atroce. Hein, on le verrait se faire encercler de personnes qui se masturbent. Enfin, comme dans The Walking Dead, si la série avait été tournée au Cap d'Agde un 11 juillet. Alors bon, après, ça fait 30 ans qu'il travaille en télé, donc des trucs comme ça, j'imagine qu'il appelle ça un samedi soir tranquille avec les équipes de rédaction. Bref, vous l'aurez compris, à part la dépendance, le message des Australiens est que la masturbation, c'est formidable. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite, tous ensemble, mais non, en fait non, car nous ne sommes pas en Australie. On le sait parce que nous, en musique, nous n'avons pas eu Nick Cave, mais le groupe Kyo. Nous sommes en France, ce pays où il suffirait qu'Emmanuel Macron, même en langue des signes ou en ASMR, se mettent à promouvoir la masturbation pour que 50 millions de slips volent comme dans une fête de Patrick Sébastien. On aurait oublié de foutre des serviettes. On est là avec nos vagues de Covid, nos masques, nos vaccins à galérer, alors que les Australiens, eux, se tripotent. C'est quand même injuste.
Merci Tanguy Passion. Tout ça dans le mois de novembre où il y a le hashtag No Not November, tu sais, où il ne faut pas jouir pendant un mois.
Ah, je connaissais pas ça.
Si, t'es au courant.
Ah, facile.
Oui, oui.
Ça fait un an que je suis en novembre.
C'est très gênant.
Est-ce que...
C'est vrai, je vais me rendre compte. Voilà, voilà.
Bon. Tu vas t'allonger ou...
Mais
j'aimerais bien.
Mazarine Pinjot et Olivier Norek, vous écrivez pour cette collection, vous écrivez, vous aimez écrire, mais quel genre de lectrice êtes-vous, Mazarine?
Ah, j'aime tout lire. J'ai pas de...
Est-ce que par exemple pour vos enfants, vous avez choisi des contes, des histoires d'enfants que vous connaissiez vous déjà ou des nouvelles?
Oh oui, j'ai lu un peu tout ce qui me tombait sous la main. Bon, maintenant ils sont ados, donc je leur lis plus beaucoup d'histoires.
J'entends.
Mais j'ai vraiment. C'est un peu eux qui décident en fait. Enfin, c'est un peu selon le succès de l'histoire, parce qu'après on relit aussi beaucoup des histoires.
Ah ça.
Et donc c'est eux qui choisissent les histoires.
C'est fou d'ailleurs. Comment expliquer que les enfants aiment tant relire et relire des histoires, revoir des films, des dessins animés jusqu'à la corde. C'est incroyable.
C'est impressionnant.
C'est rassurant.
Il y a quelque chose comme ça. Ouais.
Nous on fait un peu la même chose avec Dirty Dancing, non?
C'est vrai.
Je sais pas. Ça passe toutes les deux semaines.
C'est vrai.
Et on regarde.
Et est-ce que vous êtes une lectrice critique aussi, c'est-à-dire est-ce que vous jugez l'histoire ou son verbe en disant finalement c'est pas si bien que ça?
En général ou pour les enfants?
Enfin. En général.
En général, bah oui, c'est-à-dire que j'aime tous les genres.
Vous l'avez fait ça aussi dans des émissions de.
Ah bah oui, non mais bien sûr. Alors, j'aime lire tous les genres et puis il y a des livres qui me tombent des mains quand ils sont très mal écrits ou quand ils sont. Un peu biaisé quand ils trichent aussi, voilà. Enfin, il y a à nouveau cette chose-là dont on parlait avec les enfants, mais je pense qu'il y a des, voilà, il y a des gens qui se regardent écrire ou qui essayent de faire des effets. Enfin, bon, en tout cas, quand c'est pas exactement, quand l'écriture est pas à l'endroit où elle doit être, quand on met pas vraiment les mains dedans, ça me tombe vite des mains, justement. Mais sinon, non, je suis assez bon public.
Et Olivier Norek, de la même manière que des musiciens, des artistes écoutent d'autres disques pour, non pas plagier, mais s'inspirer, se dire, il peut y avoir tel effet de structure ou une intro plus longue ou un break de batterie, que sais-je. Est-ce qu'un auteur lit un livre aussi en trouvant des idées de structure, d'architecture littéraire?
C'est même terrible. C'est-à-dire que vous lisez un bouquin et vous dites « ça, c'est bon, c'est vraiment très très bon. Comment je vais pouvoir le voler sans que ça ait l'air d'être un vol trop manifeste ?» En fait, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, tout simplement. Ouais. On ne crée rien. On est l'agrégat de tout ce qu'on a aimé, de tout ce qu'on a imprimé, de tout ce qu'on a vécu, mais aussi de toute la culture. Et donc, moi, je suis probablement l'addition de tous les livres que j'ai lus et de toute l'expérience que j'ai eue aussi sur le terrain. Donc obligatoirement, oui, on prend beaucoup à l'autre. Et en tant qu'auteur, on a un stylo rouge dans la main. C'est-à-dire que cette introduction est trop longue, ce personnage sert à rien. Moi, par exemple, dans les romans policiers, je supporte pas les fausses pistes. Les fausses pistes, c'est un truc qui va t'emmener pendant 40 pages à côté, et donc t'as perdu 40 pages de ta vie, si ça sert à rien. J'aime pas, c'est John Irving par exemple aussi, qui fait vachement attention à ses fins. Il dit souvent, est-ce que la fin de ton livre justifie que je me gaufre les 500 pages qui la précèdent? Donc ça, c'est quelque chose aussi à quoi je fais attention. Quelques caricatures, quelques ficelles, par exemple, j'aime pas les aveux à la fin d'un livre. Oui, j'ai fait ça parce qu'en fin de compte, tu m'as fait ça il y a 3 ans, et ça explique, pour moi, les aveux à la fin d'un bouquin, c'est tout ce que t'as pas été capable de mettre à l'intérieur de ton bouquin parce que t'es pas assez bon en fait. Donc voilà, sauf Agatha Christie qui réunit tout le monde dans le salon à la fin et qui fait la grande scène
Alors pourquoi pas elle?
Parce que celle-là, ça va, on touche pas Agatha Christie.
Ok, d'accord.
Voilà.
Okay, d'accord.
Mais c'est vrai que la littérature s'inspire, et moi, au fur et à mesure où, enfin, j'ai beaucoup lu, maintenant quand un livre n'est pas fort, enfin ne vient pas apporter quelque chose, même si c'est un petit truc, je le laisse tomber, j'arrête de lire. Et alors qu'avant j'étais incapable d'arrêter un livre de pas lire jusqu'à la fin.
Est-ce qu'on s'en rend compte vite, genre au bout de la 50e page?
Quand c'est pas essentiel, quand ouais. Finalement c'est assez rapide. Bavardage. Ouais.
La générosité aussi, quand on voit que l'auteur s'est vraiment impliqué. Par exemple, si moi je dois écrire un bouquin qui se passe dans la jungle de Calais, ce qui a été le cas, je prends mon sac à dos et je vais vivre dans la jungle de Calais avec ma tante pendant plusieurs semaines. Si j'écris un bouquin qui se passe à Saint-Pierre entre le Groenland et Terre-Neuve, je vais vivre à Saint-Pierre pendant plusieurs mois.
On attend aussi d'un auteur qui soit auteur de fiction, qui soit dans l'imaginaire le plus forcément un documentaire.
Mais ça n'empêche pas l'imaginaire. Mais si au moins vous pouvez retransmettre en ayant goûté, touché, vu les textures et tout ça, je pense que c'est parfois plus, c'est parfois plus honnête.
Du coup, moi, j'ai bien envie d'écrire un bouquin qui se passe à Ibiza, quoi.
Pas en Australie.
Non. Donc, l'engagement de l'auteur, il est essentiel. C'est assez amusant quand on écrit un bouquin, ça nous prend un an, deux ans, trois ans, et pendant ce temps-là, le lecteur, lui, va en lire 10, 20, 30. Ce qui fait qu'en fait, on écrit quelque chose pour un public qui est bien plus fort que nous sur cette même matière. Moi, quand j'écris un polar, les lecteurs, ils ont eu le temps d'en lire, et les lectrices, 3, 6, 12. Ce qui fait que j'écris des polars pour des gens qui s'y connaissent encore mieux que moi dans les polars.
Est-ce que vous inquiétez de savoir si un autre livre n'est pas déjà ou va sortir un mois avant vous en traitant le même sujet ?
Alors le même sujet, il y a un flic et un assassin, à la fin le flic arrête l'assassin, c'est la base du polar, donc normalement c'est vraiment essentiellement... voilà, ça va être... Calais, en fait, moi j'ai des sujets où je me sens assez libre, c'est-à-dire que écrire un polar dans la jungle de Calais, je savais que j'y allais pas en avoir 15 cette année-là. Voilà.
Donc vous posez la question.
Oui, on se pose la question, histoire de pas arriver effectivement sur un.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est
faire
que
le film La Guerre des Boutons, où ils ont sorti les deux mêmes films au même moment, deux productions.
Oui, mais justement,
c'est
je trouve
terrible.
Que c'est intéressant de voir que tout à coup, il y a comme ça des choses, enfin, il y a un air du temps où tout à coup, tout le monde s'empare des mêmes sujets, mais sans se donner le mot, hein, bien sûr. C'est toujours très étonnant ça. Il y a des comme ça des faisceaux de sujets qui attirent.
Justement, on va voir ce qui se passe dans le monde de la culture avec Leïla Cadeau-Bonnet.
Quel prix vient de gagner l'écrivain Sylvain Patieux?
Wow.
Vous connaissez Sylvain Patieux?
Le plus mauvais livre.
Non.
Quand tu dis viens, c'était quand?
C'était le 8 novembre. Et le mois peut avoir son importance.
Mais c'est un prix.
Non, c'est le.
C'est le No Notebook.
Non, c'est. Non, vous connaissez.
Le livre dont on se branle, quoi.
Le Goncourt des lycéens, non, mais c'est pas encore.
C'est le prix Vendredi. Vous connaissez le prix Vendredi? Oui. En petit clin d'œil à Michel Tournier?
Non.
C'est l'équivalent du Goncourt de la littérature jeunesse. C'est un prix qui est assez récent, qui a 5-6 ans. Et c'est Sylvain Patieux, qui est maître de conférence en histoire en Seine-Saint-Denis, qui l'a remporté avec son roman Amour. Chrome, donc un prix pour enfants. Est-ce que vous avez déjà un conseil lecture à nous donner d'un auteur? On en parlait tout à l'heure de littérature jeunesse, puisque c'est aussi le but de cette émission, de promouvoir la littérature pour les plus jeunes.
Roald Dahl, moi, il m'a beaucoup accompagné. J'ai beaucoup aimé cet auteur.
Oui, après aujourd'hui, des gens comme Marie Desplechin, Suzanne Morgensen,
qui ont signé d'ailleurs
Nathalie Kuberman, qui fait des merveilleux livres aussi pour enfants.
Marie Desplechin, qui est aussi dans la série.
Absolument, et Morgan Stern aussi, qui a écrit dans la série Oli. Si je vous parle à présent d'un jury avec Didier Decoin, Irène Frein, Joël Dicker et Welbeck, je parle de quel prix? Spécial prix littéraire.
Il a mal à la tête, Olivier.
Non, il réfléchit.
Vous faites la même tête.
Oui, c'est ça.
Didier Decoin, Irène Frein, Joël Dicker et Welbeck. Vous allez rire.
Le prix du poivron?
Non. C'est un prix qui est lié aux personnages du roman, des personnages pas forcément humains.
Animalier?
Mm-hmm.
Prix du roman animalier?
C'est le prix littéraire 30 millions d'amis, absolument.
Mais un peu de respect pour 30 millions d'amis,
et
s'il te plaît.
Et ce jury doit départager 16 romans et essais où l'animal est à l'honneur. La remise du prix se fera le 23 novembre chez Drouan, là aussi chez Drouan, le 23 novembre.
Et là, tu boufferas
novembre.
Des animaux.
Je vous demande pas si vous avez un conseil à me donner avec un bouquin ou un animal et le héros. Est-ce que dans vos littératures, là c'est aussi des essais ou des romans sur des animaux, mais c'est des genres, il y a plein de genres autour de ça. Les essais, qu'est-ce que vous avez lu récemment d'intéressant en essai? Je sais que vous en lisez, vous, Mazarine.
Moi, je lis même beaucoup plus d'essais en réalité que de romans, mais aussi beaucoup de philosophie classique, mais ça, c'est pour mon travail. Donc, en fait, j'ai beaucoup moins le temps de lire des romans, des essais vraiment qui m'ont marqué récemment. J'aurais du mal à dire, là, je lisais un livre de Jean-Claude Milner magnifique, je relisais Rancière, La haine de la démocratie, parce que...
Oui, que vous aussi vous relisez.
Oui, non, mais je relis parce que c'est du travail, des livres qui se travaillent, en fait. C'est pas des livres qui se lisent comme, le soir, pour s'endormir. Le dernier livre de Rosan Vallon était intéressant, enfin, voilà.
Olivier?
Absolument pas.
Merci. Dans la collection Une histoire et Oli, il y a donc Mazarine et Léonie, Benjo, autant la citer, Olivier Norek, mais également Delphine de Vigan, par exemple, Zeb Leïla Slimani, Marie Desplechin, on l'a dit, François Morel, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, et bientôt Leïla Kaddour-Boudet. Dans les projets, il faut que toi tu t'engages surtout. Dans les projets, il y a Les Invisibles, Olivier.
Oui, alors c'est déjà passé, mais ça a été un projet à un moment donné, mais c'est déjà passé sur France 2, oui.
C'est pas vrai, c'est quand
même les 6 épisodes.
Je suis passé à côté. Alors, mais c'est donc sur le replay, on peut le.
Mais voilà, ça peut être un projet de replay.
Tout à fait. C'est passé quand ?
Il y a 4 ans.
C'est passé il y a 8
ans. Les Invisibles.
Non, c'est passé il y a. C'est passé il y a un petit mois. C'est passé il y a un petit mois.
Et qui a dit Les Invisibles, ça porte bien son nom ? C'est pas beau, ça.
C'est vilain.
Mais non, ça a cartonné en plus. Je me défends. Ça a dépassé The Good Doctor. Ça, quand même, ça a dépassé la série américaine.
Ah ouais.
On est plutôt fier.
Et Mazarine, qu'avez-vous comme projet?
Rien. Non, si. Alors, je vais reparler de ma cousine parce que non, pas de roman. On est en train d'écrire on a écrit une pièce de théâtre sur Juliette Gréco. Et là, on est en train de la monter. Et on en a vu une lecture, une demi-lecture hier pour les professionnels. C'était super. Enfin, j'ai adoré. Des comédiens sont formidables. Et ça va être très drôle et très très joyeux et très émouvant.
Un nouveau roman, Olivier ?
Oui, un nouveau roman en cours. J'en suis à la page 263 ce matin.
C'est une vanne. Une vanne. Vous savez pas le numéro de la page. Mais non, ça ne savait rien.
Ah ben si, puisque je l'écris sur mon ordinateur, donc il est marqué en bas de.
Oui, mais c'est en A4. C'est pas dans la.
Ah non, moi j'ai déjà prévu les 1500 caractères qui font la page,
Mais c'est un psychopathe.
Ah oui, ça
méticuleux.
Ça permet de se rendre compte où on en est.
Mais ça permet de se rendre compte et de savoir. C'est vrai que si un polar dépasse les 500 pages, ça peut être un problème à la fois. Bah aujourd'hui, on en manque de papier. D'ailleurs, il y a d'ailleurs le concours qui se demande comment ils vont réussir à imprimer autant de bouquins cette année.
Comment s'appellera-t-il ?
Donc ne l'achetez pas.
Alors, pour l'instant, le titre, c'est Renaissance. Il peut changer encore. Et justement, il se passe sur une petite île, sur une île qui s'appelle Saint-Pierre, nichée entre le Groenland et... c'est Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon, nichée entre le Groenland et Terre-Neuve. Et on va y parler beaucoup de brume. Ça va être un polar à l'aveugle.
Parfait. Des excuses à présenter, Olivier. Daniel,
désolé pour Olivier Marchal, un ami fidèle et très violent de l'émission, un ancien flic, lui aussi, qui m'a appelé à la pause pour me dire qu'il ne se reconnaissait absolument pas dans le profil fin, délicat, réfléchi, d'un pied d'oreille. Il se dit plus relâché. Ah, tu m'étonnes, on le connaît, le Marchal, c'est défoncé et compagnie. La dernière fois qu'il a dormi, on comptait encore en francs. Prends ça, inspecteur la bavure. Désolé pour les grincheux. Grincheux qui croyaient que Leïla ne pouvait pas poser de questions de fond. Que si c'était pas superficiel, il y avait plus personne, blablabla, blablabla. Eh ben non, Leïla, elle peut poser la question qui te lance une émission, la question qui te fait connaître en profondeur un invité, la question qui te donne une direction éditoriale pour toute la journée. Écoute-moi ça.
Vous étiez petit, Olivier, enfant ?
Oh là là, pas l'intervieweuse dans ta face, trapenard.
Demain, c'est Raphaël Haroche qui sera notre invité pour son nouveau recueil de nouvelles. Merci, Mazarine. Merci, Olivier.
Merci beaucoup.
Je rappelle l'application, ça s'appelle Oli, O-L-I. Bonne journée sur Inter. Voici les carrières de campagne de Philippe Bertrand.